Alors, au 5e siècle, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, d'historiquement repérable dans le monde européen. C'est la chute de l'Empire romain. Vers 450 à peu près, les frontières de l'Empire romain se sont effondrées et l'Empire romain, qu'on appelait la Rome éternelle, a chu. Les hordes barbares ont envahi tout ce qui était le monde civilisé de l'époque, avec tout ce que ça a comporté comme guerre et comme destruction. Et il y a un personnage qui a assisté à ça, et son nom c'est Aurelius Augustinus, Augustin. Et je pense que ça fait partie un peu de sa réflexion quant aux réalités du monde, à ce qui est durable, à ce qui ne l'est pas. Imaginez que depuis 5 siècles, l'Empire romain régnait sur pratiquement tout le Maghreb, le Moyen-Orient, la Perse, la Grèce, la Thrace, jusqu'à l'Angleterre, jusqu'au mur d'Adrien, là, qu'il avait construit pour empêcher les barbares de pénétrer dans l'Empire. Et donc la Gaule était aussi romaine, et tout s'effondre. Et Augustin a une réflexion qui est intéressante. D'ailleurs, elle va être le sujet d'un de ses livres qui s'appelle « La cité de Dieu ». Et c'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Simon qu'on chante ce chant avant mon message. Et il écrit une chose extrêmement intéressante qui nous fait réfléchir sur ce qu'est la vie éternelle. Et c'est ce dont on va parler ce matin. Il écrit « Deux amours ont donc bâti deux cités. Celle de la terre par l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Celle du ciel par l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. L'une se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur. L'une en effet demande sa gloire aux hommes, l'autre tire sa plus grande gloire de Dieu, témoin de sa conscience. L'une dans sa gloire redresse la tête, l'autre dit à son Dieu, tu es ma gloire et tu élèves ma tête. » Alors, cette question de cette cité radieuse de la vie éternelle, c'est une question qui hante la Bible et qui probablement aussi vous hante et vous pose des questions. Et la Bible nous en parle souvent. Et cette vie que Dieu nous promet, eh bien, à laquelle bien sûr nous pouvons croire et nous devons croire, mais que nous ne pouvons imaginer. C'est quelque chose d'extraordinaire de croire à quelque chose qu'on peut à peine imaginer. Alors, je crois qu'il ne faut pas aller chercher dans nos propres réflexions ce que peut être la vie éternelle. Je crois qu'on ne trouverait qu'une réponse à notre mesure, une réponse à mesure humaine. Et peut-être même cette réponse que nous aurions fabriquée dans nos esprits humains pourrait être capable de nous désespérer, parce qu'on n'arrive pas à imaginer ce que ça peut être. On va plutôt s'inspirer de l'Évangile, et je vais vous lire des passages que vous connaissez par cœur, mais j'aimerais qu'on les revisite ensemble et qu'on en tire quelque chose ce matin. C'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, versets 24 à 31. « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. » Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà une première réponse. Et on va lire aussi dans la première épître de Jean, au chapitre 10, au chapitre 5, pardon, premier épître de Jean, chapitre 5, du verset 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, que nous disent les évangiles? Bien, la vie éternelle, finalement, c'est assez simple. C'est celle de Dieu lui-même. Une vie heureuse et sur laquelle les circonstances ne peuvent pas mordre, ne peuvent pas nous détourner. Et c'est Jésus seul qui peut nous la communiquer, parce qu'il a lui-même, il l'a possédé, cette vie éternelle, et il la possède. Alors qu'il vivait sur terre, Jésus était déjà la vie éternelle. Et ce qui nous donne la vie éternelle, ce n'est donc pas la mort, comme souvent on pense, ah, on va mourir et on va avoir la vie éternelle. Non, qui nous donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et pour la posséder, eh bien, il faut lui donner en échange notre vie mortelle. Il faut nous donner à lui. Et c'est ainsi qu'en acceptant le Christ, eh bien, nous pouvons entrer dès aujourd'hui dans la vie éternelle. Et alors, la mort qui nous attend ne sera plus qu'un passage. Celui qui a le Fils a la vie. Et alors, la question qui nous taraude et que vous vous êtes sûrement posée à nous, qu'est-ce qui va se passer après la mort? Eh bien, parler de la vie éternelle, comme Jésus en parle, comme nous en parlons ce matin, c'est une manière de répondre à cette question. Et pour bon nombre de nos amis, de gens qui sont pas forcément donnés au Seigneur, eh bien souvent, on a beaucoup de prudence et de rigueur. Il doit y avoir sûrement quelque chose après la mort. Et souvent, les gens disent ce quelque chose, eh bien, c'est peut-être leur dimension spirituelle, peut-être leur être profond, ou ce qui est essentiel. Alors, deux choses d'abord, c'est que parler de la vie éternelle, c'est exprimer certaines convictions. La première, c'est que la vie continue après la mort. Et qu'il y a dans le quotidien, dans notre quotidien temporel, maintenant, déjà une part d'éternité, une part de vie éternelle. L'Évangile nous l'a expliqué. Mais il faut se méfier de certaines pensées philosophiques. Souvent, on parle d'immortalité, certaines formes d'existence après la mort, de l'immortalité de l'âme. Mais c'est pas exactement de ça que nous parle l'Évangile. Certains aussi nous parlent de réincarnation, qui serait une vie qui ressurgirait après la mort sur terre. Eh bien, tout ça sont des visions humaines, des pensées philosophiques. Mais ce n'est pas la pensée de la vie éternelle que Jésus nous promet. Pour nous, chrétiens, dans la notion de vie éternelle, Dieu nous fait comprendre d'abord la résurrection de Jésus. Et ici, vraiment, la vie éternelle prend cette figure originale. Elle est fondée, bien sûr, sur un principe spirituel, mais aussi, comme l'indiquent certains passages, elle implique quelque chose du corps. On va regarder ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35 à 44. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul à propos de cela. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et cette conception de la vie éternelle qui commence dès maintenant et qui se poursuit par la suite, eh bien, commence dès que vous êtes en Jésus-Christ et continue sans limite avec notre Seigneur. Et c'est peut-être un concept qui est un peu osé. Comment comprendre ça? Comment essayer de comprendre ce que vient de nous dire l'apôtre Paul? Comment essayer de comprendre que dès maintenant, nous avons la vie éternelle? C'est une conception dont je disais osée et originale, mais elle est fondée sur notre foi, parce que nous croyons les paroles de notre Dieu qui sont inscrites dans ce livre. La vie éternelle, elle est comme la résurrection. Ce n'est pas une interprétation humaine, mais elle suppose quelque chose d'extraordinaire, c'est la gratuité qui survient entre Dieu et les hommes. C'est la grâce. C'est pour ça que nous avons la vie éternelle. C'est parce que Dieu va donner quelque chose à l'homme. Dieu, par Jésus-Christ, en nous communiquant l'esprit de la résurrection, nous établit plus grand que la mort. Nous sommes plus forts que la mort. Parce que Dieu nous donne ce don de grâce et ce don de résurrection. Dieu nous fait participer d'une nouvelle façon, et ça c'est extraordinaire, à ce qu'il est lui-même. Vous imaginez que Dieu vous fait participer, vous, être humain, on a dit tout à l'heure moche, plein de péchés, il vous fait participer à sa puissance et à son amour. Par conséquent, la vie éternelle des chrétiens, c'est la vie de l'éternel. Et il y a un penseur qui s'appelle Henri Bourgeois qui a dit « La vie de Dieu implantée dans la vie humaine ». Voilà ce qu'est la vie éternelle. La vie de Dieu implantée dans la vie humaine. Est-ce que vous arrivez à imaginer que Dieu vient s'implanter dans vos cœurs, dans vos esprits, dans votre corps? C'est extraordinaire. Et ni la croyance en ce que j'ai parlé tout à l'heure, l'immortalité de l'âme ou la résurrection ou la réincarnation ou l'immortalité, il y a pas ça dans ces idées-là. Ce sont uniquement des idées humaines. La croyance, la foi en la vie éternelle a été parfaitement validée en Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ est venu sur terre avec la vie éternelle, qu'il vit en vous, que vous avez la vie éternelle. Et c'est une notion finalement assez nouvelle dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Vous savez, à l'époque de Jésus, les pharisiens croyaient à la vie éternelle et les sadducéens n'y croyaient pas. Mais déjà les prophètes avaient prévenu. On voit ça dans Ézéchiel et c'est vrai que cette notion de vie éternelle qui va se poursuivre par la suite, eh bien, elle est issue, et on le voit tout au cours de l'histoire de l'Ancien Testament, d'une expérience religieuse lente qui est basée probablement, sans doute, d'une réflexion sur la fidélité de Dieu pour ceux qu'il aime. Et on voit ça, il parle avec ses prophètes. Vous connaissez ce passage dans Ézéchiel où il y a tous ces eaux là qui sont dans cette vallée et puis Dieu va les faire revivre. Regardez ce que dit Dieu au prophète. C'est en Ézéchiel chapitre 37. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Plus loin, au verset 5, ainsi parle le Seigneur de l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais vous faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Plus loin, dans Daniel, au chapitre 12, versets 1 et 2, en ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Déjà, dans l'Ancien Testament, cette notion de résurrection et de vie éternelle avec Dieu était déjà présente. Mais elle va s'épanouir et être compréhensible parfaitement avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est la vie éternelle, vivant sur terre. Et donc, cette notion de vie éternelle, elle est basée en Jésus-Christ et communicable à partir de lui, à quiconque vit de son esprit. La vie éternelle, c'est la vie de Jésus prenant forme de résurrection. Et la résurrection de Jésus et la nôtre conduit à simplement ne pas comprendre cette vie éternelle uniquement de manière purement spirituelle. L'éternité qui est donnée aux chrétiens s'explique et s'implique dans notre histoire présente dès maintenant. Et bien sûr, explique et suscite dans l'au-delà une forme corporelle en même temps que spirituelle. C'est l'apôtre Paul qui le dit, une forme corporelle spirituelle. Je ne sais pas ce que ça sera et je ne veux pas l'expliquer parce que d'abord je ne pourrais pas vous l'expliquer et puis je serai sûrement en dessous de ce que ça sera. Et il faut bien sûr ne pas céder dans ce domaine à des images naïves. Le corps humain que postule la résurrection n'est pas banal. C'est un autre corps. C'est un corps d'un autre ordre que ce qu'on pourrait penser, que nos habitudes peuvent penser. C'est un corps spirituel. L'apôtre dira aux Romains en chapitre 8, verset 23, « Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Donc, une telle conception, je dirais, va beaucoup plus loin qu'une simple croyance à l'immortalité de l'âme. Elle parle d'un corps renouvelé, tout différent de notre corps actuel, mais elle parle d'un corps. Et la vie éternelle, pour nous les chrétiens, elle est déjà commencée. Nous allons changer de corps, mais elle est déjà commencée, parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Et elle sera encore beaucoup plus magnifique en la présence tout près de notre Seigneur. Donc ce matin, je voudrais vous inviter vraiment à méditer sur le rapport entre la vie éternelle en l'homme et la vie éternelle en Dieu. Jésus va tout réunir en attestant à la fois notre vie éternelle et la vie éternelle en Dieu. Nous allons entrer dans la vérité de Dieu par une seule solution, Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. C'est maintenant, dans notre vie actuelle et avant le passage de la mort, après il sera trop tard. Méditons sur cette vie éternelle que Dieu nous promet et qu'il nous explique extraordinaire. Alors, faites dès maintenant entrer la vie éternelle en vous, parce que l'union avec Jésus-Christ, elle signifie la sécurité éternelle. Il n'y a qu'en lui que nous pouvons avoir cette certitude de la vie éternelle. Et vous savez pourquoi les Romains ont été battus en 450 ? Parce qu'ils ont fait confiance à une sécurité extérieure à eux. Ils ont pris des chefs barbares pour les mettre aux marges de l'Empire. Et les chefs barbares, que croyez-vous qu'ils ont fait ? Ils ont trahi. Et donc l'Empire est tombé. Et quand Augustin décrit cette cité, il est en train de parler de quelque chose. C'est que notre seule sécurité éternelle, c'est Jésus-Christ. Et il faut absolument que nous sachions ça, qu'elle vive en nous. Souvent, on entend parfois des chrétiens qui sont pas sûrs de leur vie éternelle. Nous devons être sûrs de notre vie éternelle, parce que si nous croyons en Jésus-Christ, s'il vit en nous, eh bien, nous savons qu'elle a déjà commencé et que la mort, finalement, n'est qu'un passage. C'est pas la mort qui nous donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et bien sûr, ce ne sera pas simplement qu'une vie spirituelle, il y aura quelque chose de plus. Je ne peux pas vous expliquer, et peut-être quelqu'un a une explication, mais je sais que ce sera formidable. Et pensons à ça dans nos vies de tous les jours. Amen.